Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Chrétien et libre ». Est-ce possible ? Nous arrivons à l'étude numéro 7 et le titre sera « Le plaisir de la morale ». Le plaisir de la morale. Chers amis, Jésus a donné plusieurs fois l'exemple, ne négligeant pas de connaître un certain nombre de plaisirs, ce qui d'ailleurs scandalisait son entourage. Nous avons déjà parlé des critiques qu'il s'attire en ne jeûnant pas comme il le devait. Mais il existe d'autres exemples, à commencer par le miracle de Cana. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. J'ai côtoyé des serviteurs aussi bien anglais qu'américains et australiens, et le plus grand nombre pense que quand il parle de vin dans la Bible, c'est du jus de raisin. Or, je ne savais pas qu'en ce temps-là, ils avaient déjà les techniques de lyophilisation, etc. Bref, nous allons voir ça de plus près. La scène est magnifique. Jésus et sa mère sont invités à un mariage. Or, bien loin de fuir ce genre de manifestation, l'apôtre Jean nous rapporte donc que Jésus, fils de Dieu, allait à des mariages où, de surcroît, on buvait assez bien, puisque, à un moment donné, les invités étaient déjà ivres et avaient bu toute la réserve. L'intercession de Marie près de son fils va donc faire bouger les choses, non pas pour mettre de l'ordre, mais au contraire, pour changer l'eau en vin, en un vin qui était encore meilleur que celui qu'ils avaient déjà bu. C'est absolument incroyable. Voyez-vous, nous sommes habitués à avoir une lecture mystique de cette page d'Évangile. C'est le signe du passage à la Nouvelle Alliance, la préfiguration de la Passion, etc. Et tout ça est vrai. Mais il convient aussi d'en avoir une lecture littérale, pourquoi pas, et de nous représenter la scène telle qu'elle était. Devons-nous être choqués que le Fils de Dieu ait non seulement participé, mais aussi contribué directement à ce que les invités soient encore plus ivres qu'ils étaient déjà, avec du meilleur vin en plus? Il ne s'agit donc pas de glosser pour savoir ce que lui-même a fait, mais de voir combien dans l'incarnation Dieu rejoint également cette joie des noces entre un homme et une femme et habite de sa présence une fête un peu tapageuse. Voyez-vous le plaisir de boire ensemble autour d'un tel événement semble donc une chose tout à fait normale et humaine et non pas condamnable. D'autres événements vont dans ce sens, ainsi que cette scène appelée l'onction de Béthanie. Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme est venue avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur de très grand prix. Brisant le flacon, elle le versa sur la tête. Or, il en a eu qui se sont bien sûr plein de tout cela et on fait des remarques acerbes. Oui, à quoi bon ce gaspillage de parfum? Car ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et pouvait être donné aux pauvres. Et ils la rudoyèrent. Mais voilà que Jésus, il leur dit, mais laissez-la tranquille. Pourquoi la tracassez-vous? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Car les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, mais vous pourrez leur faire du bien, bien sûr, à n'importe quel moment. Quant à moi, eh bien, vous ne mourrez pas toujours. Voyez-vous, ce n'est pas ici la question du plaisir seul, mais encore plus le luxe dans le plaisir. Un luxe hors de prix, juste pour une bonne odeur répandue dans la maison, après une longue route à pied. Et là aussi, les anciens ont commenté abondamment ce texte en faisant le parallèle avec les aromates utilisés plus tard pour l'ensevelissement de Jésus, mais d'un point de vue strictement littéral. Nous assistons ici, encore une fois, à la mise en œuvre d'un plaisir fort que Jésus ne dédaigne pas. Un dernier passage va dans ce sens, mais il y en a beaucoup d'autres. Il s'agit des préparatifs pour la Pâque. Le premier jour des Azim, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Où veux-tu que nous te préparons de manger, de quoi manger la Pâque ?» Jésus leur dit « Allez à la ville. » chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Et les disciples firent exactement comme Jésus leur avait ordonné, et de préparer ainsi la Pâque. Voyez-vous, à force de voir des représentations un peu épurées de la scène, nous pouvons finir par penser qu'il n'y avait que du pain et du vin sur la table et rien d'autre. Mais pourtant, tout le faste de cette cérémonie familiale de la Pâque a dû être, on peut dire, respecté avec ce que cela comporte de cuisine variée et festive. Voyez-vous, la mort sur la croix est pour le lendemain. Mais voilà que Jésus la prépare avant tout par un repas de fête auquel il va en outre donner une signification nouvelle en inaugurant une autre manière de vivre les passages de Dieu dans la vie des hommes. Ce sera donc par le sacrifice, non plus d'un agneau, mais de lui-même. Et cela se fait au cours de ce repas de fête prévu par le rituel élaboré des Juifs. Ces exemples montrent donc que le plaisir n'est pas étranger à l'incarnation. Il est présent, comme en toute réalité humaine. L'enjeu de la vie morale n'est pas de le supprimer, de le brimer, de le condamner, mais de l'ordonner vers un bien qui lui est à la fois supérieur et qui lui donne tout son sens. Du reste, une bonne bouteille, un bon plat, un bon café provoque certainement un plaisir, car, voyez-vous, on y découvre quelques biens pour nous. Évidemment, Si la bouteille commence à nous parler, eh bien c'est sans doute le signe qu'il faut arrêter de en boire. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ouvrir une bonne bouteille ou préparer un bon repas se fait bien souvent pour accompagner la joie d'une relation, tout simplement parce que le corps a besoin d'être associé au plaisir de la rencontre avec une personne appréciée. J'ai une amie pasteur qui est une excellente cuisinière et elle fait des magnifiques plats et elle aime assez ouvrir une bonne bouteille pour pouvoir fêter ensemble dans l'harmonie et de prier ensemble également pour remercier le Seigneur de tous ses bienfaits. En un mot, il convient de donner du sens à sa vie pour ensuite donner de la vie à nos sens. Un exemple simple illustre bien ce point, c'est celui des toxicomanes qui sont à la recherche permanente du shoot qui leur procure une sensation forte. Pour la rechercher, ils mettent totalement de côté leur chute dans une spirale de mort, en traitant leur corps d'une manière telle qu'ils s'enfoncent petit à petit dans l'autodestruction. Et le plaisir qu'ils ressentent et recherchent est tellement fort que leur intelligence n'est focalisée que sur son obtention, sans réussir à reprendre le contrôle de la pulsion. Voyez-vous, le premier type de bien concerne la survie de la personne. Elle a besoin de manger, de boire, de dormir pour que le corps continue à vivre. Sans ces biens les plus basiques, eh bien l'homme ne peut vivre. Lorsque la faim ou la soif tenaille et que la fatigue oppresse, eh bien le plaisir de manger, de boire, de se coucher dans un bon lit, eh bien c'est d'une très grande intensité, car elle est la rencontre d'un bien, certes basique, mais fondamental pour que nous puissions continuer à vivre. Il est d'ailleurs étonnant que bien souvent, ce plaisir s'exprime par un profond soupir, soupir de contentement, comme si le souffle humain avait besoin d'exhaler la satisfaction de la personne tout entière. Le deuxième type de bien porte sur tout l'aspect rationnel et sur le suivi non plus du corps, mais de l'espèce humaine. Cela concerne donc les relations amicales, tout ce qui induit une forme de génération de vie continue après nous. Le plaisir, oui, le plaisir du don de soi, le plus total et immense, il est donc le signe d'une rencontre fondamentalement bonne avec l'autre soi-même, soit ami, soit le conjoint, celui avec lequel on se joint, pas seulement pour un instant, mais pour une succession ininterrompue d'instants tout au long de la vie. Le troisième type de bien, c'est la croissance intellectuelle et spirituelle. Connaître la vérité, c'est un bien fondamental pour l'homme. Il est, on peut dire, et il procure de très grandes joies. En effet, il procure des plaisirs intenses, par exemple dans la découverte. Par exemple, quand Christophe Colomb a posé le pied sur l'île de Saint-Dominique, il a dû ressentir un plaisir d'une très grande intensité, en ayant la preuve que son raisonnement semblait bon, même s'il se trompait quant au lieu exact où il était. Archimède a poussé son célèbre Eureka, et sans doute que quand Einstein a couché sur une feuille E égale MC2, eh bien son plaisir ne fut pas de quelques instants seulement. Quel que soit le bien qui nous attire, le moment vers le bien, c'est le désir ou la convoitise, c'est le repos dans le bien, c'est la joie ou le plaisir. Et c'est pour cela que, en aucune manière, nous ne devons bouder notre plaisir. Évidemment, là où il y a de la gêne, le bien est beaucoup plus difficile. Une des interprétations de la vie chrétienne ne donne vraiment pas envie. La tristesse, elle semble être le lot, on peut dire le lot d'un certain nombre de chrétiens qui sont enfermés sans doute dans leur peur de faire le mal, d'être jugés, d'être condamnés par Dieu, que sais-je encore. Notez s'il vous plaît, Saint Marc chapitre 6, versets 16 à 18, où il est dit « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites, car ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. Or en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non pas des hommes seulement, mais surtout de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te bénira et il te le rendra. » Voyez-vous, ce que nous faisons avec plaisir, nous le faisons avec plus d'attention et de persévérance. Je répète, ce que nous faisons avec plaisir, eh bien nous le faisons avec plus d'attention et de persévérance. Cela devrait être mis en tête de tous les projets éducatifs de toutes les écoles, à commencer par les écoles chrétiennes, et devrait être également rappelé sans cesse dans les prédications, dans les formations, oui, partout où l'on parle de la vie morale. Pour aider une personne dans la vertu, il convient de lui faire découvrir le plaisir de la croissance morale, non pas par des bonbons ou des gommettes que l'on finit par rechercher pour eux-mêmes. Voyez-vous, la question essentielle à poser à un enfant qui a progressé dans son travail, dans son ouvrage, dans son activité, c'est de lui demander: as-tu pris du plaisir? As-tu pris de la joie à progresser? S'il ne ressent pas de plaisir ni aucune joie, alors son âme ne trouve pas son repos dans le bien et il risque de le rechercher ailleurs, dans d'autres domaines, des domaines qui risquent tôt ou tard par l'éloigner de ce bien. Même Dieu, dans son œuvre de la création, a ressenti ce besoin de se reposer dans le bien qu'il a fait. Dieu conclut donc au septième jour de l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour, Dieu se reposa. Oui, il se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Or si lui l'a fait, combien plus il est essentiel pour l'enfant d'apprendre à se reposer. Voyez-vous, quand c'est le cas, il est temps de faire la fête. Que la volonté de Dieu soit faite pour que l'homme y trouve son plaisir et non pas seulement des contraintes. Dans le cas contraire, sans plaisir du bien, l'homme se détournera progressivement de Dieu comme l'ont finalement fait Adam et Ève. La première des fautes d'origine dont nous avons déjà parlé est également celle du plaisir recherché pour lui-même, coupé de la rencontre du bon, du bien que représente Dieu. Et c'est pour cela que Adam et Ève se sont cachés dans le jardin. Certes, ils sont nus, mais surtout, ils ne veulent plus rencontrer Dieu. Ils ont commis le péché du plaisir sans Dieu. Et ça, c'est pas bien. La conséquence est donc terrible. La nourriture devait être auparavant un plaisir. Or, en obtenir aujourd'hui devient maintenant carrément une souffrance, on peut bien le dire. C'est pas du tout facile, chers amis. L'amour est un appel au don de soi, non pas une question d'essai, mais au don. Il n'existe pas de don à l'essai. Quand on donne, on donne. Bien sûr, dans le mariage, le don est tellement immense qu'il implique de ne pas se tromper. Et c'est pour cela que l'Église veille normalement à ce que ceux qui s'engagent dans le mariage, le font en pleine connaissance de cause, avec une maturité suffisante, c'est-à-dire avec la connaissance qu'ils ont claire et nette de cet engagement important et qui est d'une grande liberté. S'il manque une de ces conditions, eh bien le mariage lui-même n'est pas valide. C'est comme s'il n'avait jamais été célébré. Il n'y a donc aucune annulation de mariage, contrairement au langage courant. Ce qui existe, c'est une déclaration officielle de l'Église à propos d'un mariage célébré en absence d'une ou deux personnes ou plusieurs. Ce sont les conditions qui sont indispensables pour la validité du mariage. L'inscription de l'amour dans la durée de toute une vie, cela n'est pas une contrainte en tant que telle, du genre d'être condamné à la prison à vie si on se marie avec une femme ou la femme avec un homme. Ce n'est pas du tout la prison à vie, ce n'est pas Alcatraz, mais c'est juste que cet amour est tellement proche de Dieu lui-même qu'il est appelé à devenir le plus éternel possible et donc à durer toute une vie. Et c'est pour cela que la sexualité propose ou proposée dans la vision chrétienne n'est pas celle des pressés qui sont pressés à la recherche d'une aventure, d'une satisfaction immédiate, mais elle s'inscrit dans la patience d'une vie donnée avec tout le respect. La vie est ainsi un don pour le chrétien, quelle que soit la forme qu'elle prend, même quand elle est malade, fatiguée, faible ou encore cachée. Comme don, elle est donc un défi incroyable et parfois difficile à relever et à accepter. Une grande caractéristique de la vie est son mystère, car nous ne savons pas grand-chose de la vie. Même les scientifiques les plus avancés dans les recherches, ils sont beaucoup, on peut dire, dans la description et dans la compréhension de ce qu'ils voient. Mais ils ne donnent pas d'explication juste de la vie, c'est-à-dire son pourquoi, sa raison d'être, son but et sa valeur. Cette part mystique ou mystérieuse qui échappe totalement à la simple compréhension de l'intelligence de l'homme empêche vraiment de considérer la vie même extérieurement, totalement ratée, comme un échec ou comme un contre-exemple de ce que Dieu propose à l'homme. L'horizon de la vie de l'homme, à savoir le moment de la mort, n'est pas l'arrivée de la nuit définitive, mais pas du tout, mais c'est d'arriver à l'aube de la vie éternelle. Je répète, l'horizon de la vie de l'homme, à savoir le moment de sa mort, ce n'est pas l'arrivée de la nuit définitive, mais c'est à l'aube de la vie éternelle. Et tant que ce passage n'est pas fait, eh bien le sens de la vie nous échappe. Il nous reste donc l'espérance pour accueillir toute vie comme un don, même celle qui est brisée, anéantie, handicapée, pour pouvoir lui permettre de gagner sa ligne d'horizon en toute espérance. Dans le projet chrétien, la sexualité est un don de la vie, et donc acceptation du don de cette vie. Elle s'ouvre à accueillir l'autre en soi, en notre existence de chaque jour, quitte à ce qu'elle nous bouscule dans nos habitudes, dans nos choix, dans notre confort. Et cette couverture ne se fait pas sans une paternité ou une maternité responsable. Pour terminer, disons que cette prise de responsabilité se fait de manière adulte. Le recours à des méthodes de régulation des naissances, en suivant les lois de la nature, tout en étant parfois difficile à mettre en place, est une véritable éducation de la sexualité, vécue non comme la seule satisfaction d'un plaisir même partagé, mais c'est le don de soi. Dans tous les cas de figure, le plus grave dans cette vision, ce n'est pas la question de la contraception, mais c'est l'avortement. L'avortement, ce refus de la vie, non pas à naître seulement, mais déjà cet être est présent. Et nous l'avons déjà dit, ce qui est en jeu dans l'avortement, c'est la vie d'un bébé, d'un enfant, ou d'un futur homme, ou d'une future femme. Mais si l'on n'est pas convaincu de la dimension pleinement humaine de l'embryon, eh bien nul ne peut nier qu'il est un dans un stade de processus qui donne plus tard un être humain, que nous le voulons ou pas. Or, stopper le processus, Cela revient à empêcher la vie d'un homme ou d'une femme de parvenir à sa pleine maturité. Et donc, c'est tout simplement un meurtre. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un très, très grand amour. Et il est de notre devoir, de mon devoir, de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez, tout près ou très éloigné, je vous enlace maintenant et je vous embrasse tous et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as bien voulu nous révéler, ta puissance infinie. Nous te remercions que ta puissance éternelle se soit manifestée d'une façon particulière à la croix du calvaire. Nous savons, ô Seigneur, que le dernier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Désormais, nous plaçons toute notre espérance en toi, parce que tu es vraiment le sauveur des hommes. Merci, Seigneur, de ce que tu veux déposer en cet instant même dans le cœur de ceux qui pleurent un être cher. Oui, ta divine consolation, c'est de sécher leurs larmes et leur procurer l'espérance dont ils ont tellement besoin. Seigneur, nous comptons sur ta grâce qui ne fait jamais défaut et nous savons que tu feras au-delà de ce que nous pensons et que nous demandons, car tu es un Dieu merveilleux. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Et, chers amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle étude pour la continuité de cette série. Au revoir.